qu'est-ce que ces deux textes ont en commun ? Ben, de manière assez évidente, le thème de l'obéissance à la loi. Et je les ai choisis parmi les quatre qui étaient proposés ce matin à notre méditation parce qu'ils montrent bien comment les deux testaments se rejoignent, comment ils se complètent sur ce thème. Or, l'habitude de prêcher sur l'Évangile nous fait parfois mettre un petit peu de côté le premier testament. N'oublions pas que Jésus et ses disciples n'avaient pour texte fondamental ce premier testament. Et peut-être notre pharisien, enfin pharisien donc qu'on rencontre chez Luc, peut-être aurait-il bien fait de relire le passage du Deutéronome que nous avons entendu tout à l'heure. Alors, justement, revenons sur cet extrait du Deutéronome, de la deuxième loi, puisque c'est le sens du mot Deutéronome. Cet extrait, donc, les Bibles le désignent avec un sous-titre. Ce sous-titre, c'est « La loi d'amour et d'obéissance ». C'est un titre bien intéressant, je trouve. Ce qui fait la spécificité de cette loi, c'est en effet qu'elle associe ces deux termes de manière plutôt inhabituelle, du moins dans un contexte législatif ordinaire. Quand nos assemblées législatives promulguent des lois, nous devons nous y conformer, nous devons leur obéir. Nous connaissons tous cet adage qui dit « Nul n'est censé oublier la loi ». Ignorer la loi. Et donc chacun est tenu de la respecter. Mais même si ces lois sont, du moins dans un état démocratique, promulguées pour le bien commun, même si elles sont donc promulguées pour les progrès d'un pays, elles ne nous demandent pas d'être aimées pour elles-mêmes. On ne nous demande pas non plus d'aimer nos députés. On est libre de le faire. Mais elles nous demandent, en fait, simplement d'être des citoyens respectueux. Et nous acceptons ces lois par raison. Quelquefois, nous les acceptons avec résignation. Nous les acceptons parce qu'elles sont l'expression d'une assemblée que nous avons élue et qui représente notre collectivité. Or, qu'est-ce que le Seigneur attend des Israélites ? Il attend de l'amour. Il désire, selon Moïse, que les Israélites le respectent en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant, nous est-il dit, de tout leur cœur et de toute leur âme. Il y a donc, au-delà de la simple demande de respect et d'obéissance, une demande d'adhésion profonde à cette loi, une adhésion qui est fondée sur l'amour. Et cette adhésion demandée se voit dans les termes qui sont utilisés par le texte. Alors, bien sûr, nous lisons un texte qui est traduit de l'hébreu, mais les traductions concordent pour donner évidemment les mêmes sens. Il n'est pas dit ici que le Seigneur ordonne, mais qu'il attend des Israélites et de nous que nous lui obéissions, mais pas de manière servile. Dieu attend, il désire. Ce sont ici des souhaits qui sont exprimés et qui requièrent davantage notre adhésion que des ordres. Or, pour que nous soyons prêts à répondre à cette invitation, pour que nous adhérions pleinement à cette loi, il faut qu'elle ait du sens. La recherche de sens est constitutive de notre volonté d'agir et de notre responsabilité, de notre liberté. de notre responsabilité. Et nous en avons tous les jours des exemples. Bon, par exemple, j'ai parcouru récemment un ouvrage dont le titre était « Redonner du sens au travail ». Un autre exemple, avec l'aide de Charlotte, notre pasteur, j'avais, il y a quelques années, j'avais fabriqué un petit fascicule que j'ai là, redonner du sens au culte, redonner du sens à l'offrande. Car si on ne dit pas clairement pourquoi il est bon de travailler, pourquoi il est bon de donner, on n'incite pas évidemment les gens à le faire. Alors, comment Moïse, puisque c'est lui évidemment qui parle dans le texte de Deutéronome, comment Moïse donne-t-il du sens à la volonté de Dieu? Il le fait en s'appuyant sur deux raisons, hein, sur deux arguments, pourrait-on dire. L'une de ces raisons est liée à l'histoire du peuple hébreu. C'est le rappel de l'alliance entre Dieu et ce peuple. Et qui dit alliance, dit échange, dit réciprocité. Dieu vous a aimé, il vous a choisi, il vous a fait sortir de la servitude en Égypte. Il vous demande en retour fidélité. Telle est la première raison. La seconde, elle est liée à la nature même de Dieu. Il est, nous dit Moïse, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable. Un Dieu si puissant pourrait se montrer despotique. Mais notre Dieu n'est pas un despote, agissant sous le coup de ses caprices. Le respect que notre Dieu attend de nous et vient de sa justice. Il n'avantage personne, nous dit Moïse, il n'est ni partial, ni corruptible. Il aime et protège les plus fragiles, la veuve, l'orphelin, l'immigré. Dieu aime, et sa loi est une loi d'amour. Amour envers lui-même, amour envers les autres. C'est ce que Jésus, bien sûr, ne cessera de rappeler à travers les évangiles. Souvenons-nous par exemple de la parabole du bon samaritain. Avant que Jésus ne raconte cette parabole, il demande au docteur de la loi « Quels sont pour toi les deux commandements principaux ?» Et le docteur de la loi répond sans hésiter en citant donc ces deux commandements « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements sont dans l'Ancien Testament, bien entendu, dans le Premier Testament, aussi bien dans le Deutéronome que dans le Lévitique, deux textes, deux livres de loi. Alors, si on revient maintenant à la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, dans l'évangile de Luc, on comprend bien ce qui cloche avec le pharisien. Réécoutons sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je paye la dîme, et tout ce que je me procure. On le voit bien, la piété du pharisien n'est pas en cause, loin de là. Probablement se rend-il régulièrement au temple, il ne trompe pas sa femme, il paye la dîme, c'est-à-dire qu'il donne 10% de ses revenus, combien d'entre nous le font? Et par conséquent, ne vaut-il pas mieux que ce collecteur d'impôts qu'il méprise et qui, selon lui, vient laver à bon compte par une petite visite au temple, il vient laver donc ses péchés, sa conscience. C'est bien facile, après tout, de se mettre de temps en temps en règle avec Dieu, tout en continuant à amasser sans partage, à voler sans se faire prendre, en comptant sur le pardon de notre Seigneur. Alors pourquoi dès lors, ce pharisien qui respecte de manière si rigoureuse la loi, pourquoi nous est-il déplaisant, si peu sympathique? Pourquoi Jésus ne le félicite-t-il pas de son observance rigoureuse de la loi? C'est sans doute qu'il lui manque l'essentiel. Pour le pharisien, la loi est stricte et il la respecte, mais elle se résume à une série de commandements. On pourrait dire un simple règlement. Obéissance, oui, mais obéissance sans amour, sans compassion, sans gratitude, bref, sans compréhension véritable du sens de la loi. Le pharisien croit prier le Seigneur, il l'invoque, ô Dieu, hein, mais en fait, il se parle à lui-même, il s'auto-congratule de ce qu'il est, de sa différence avec les autres hommes, en oubliant complètement les bienfaits qu'il a reçus de Dieu. Le pharisien attend de Dieu qu'il reconnaisse son mérite à lui. Il n'est pas dans une prière relationnelle avec le Seigneur. Il croit devoir l'informer, comme si Dieu ne savait pas. Il croit devoir l'informer de ce qu'il fait, de ce qu'il est, et il se vante. Alors le collecteur d'impôts, lui, peut bien être moins respectueux de la loi, c'est certain. Mais il en a conscience. Et c'est avec humilité qu'il dépose son fardeau devant Dieu et qu'il exprime sa repentance. « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Et par ces simples mots, il est dans l'alliance avec un Dieu qui pardonne. Car par sa demande de pitié, il reconnaît implicitement mais pleinement aussi l'amour et la bonté de notre Seigneur. Et donc ce que nous disent ces deux textes ce matin, c'est que Dieu aime sa création, il nous aime. Il le montre par exemple à la fin de la parabole de Luc, quand Jésus énonce cette sentence qui appelle à la modestie. Tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Cette sentence, elle est d'abord là, pourrait-on dire, pour notre bien. C'est une recommandation de savoir-vivre, de bon sens. Si, en effet, on ne se vante pas, si on ne méprise pas les autres hommes, comme le fait le pharisien, on aura probablement de meilleures relations avec les autres. Cela nous permettra une vie plus heureuse, plus épanouie. Mais l'enseignement de la parabole va au-delà d'une leçon de savoir-vivre, bien entendu. Il en va de notre relation à Dieu, que le collecteur d'impôts, tout comme le pharisien, invoque au début de leur prière. Alors bien sûr, les relations sociales dépendent de la façon dont nous considérons les autres, mais nous ne sommes pas modestes ou humbles par obéissance aux règles de bonne conduite ou de bienséance, mais parce que nous vivons sous le regard de Dieu. C'est un regard favorable qui nous oriente, qui nous conduit, qui nous engage. Nous retrouvons donc bien cette adhésion à la loi dont nous parlions avant. Et donc le pharisien peut bien respecter les commandements à la lettre, il n'en a pas compris l'esprit. Pour conclure ces quelques réflexions, je vous propose de vous lire une prière de Pascal Guézène. Pascal Guézène, c'est une aumônière des hôpitaux dans la région du Valentinois, et cette prière, elle l'a intitulée « Aide-moi à être ». Et il me semble qu'elle traduit bien sa compréhension de la loi d'amour et d'obéissance. Seigneur, je te remets ma vie tout entière, les années, les mois et chaque minute, le passé, le présent et l'avenir. Que par ta grâce, je sois bien à ma place au moment prévu, auprès des hommes et des femmes que je peux aimer et servir de ta part. Aide-moi aussi à être auprès de mes plus proches prochains, ma famille, mes enfants, mes amis, que je puisse être ce repère modeste et fiable. Apprends-moi à être simplement et sans détour ce que je suis. Être avec toi, être pleinement présente aux autres, être et me recentrer toujours autant que possible sur l'essentiel de ma vie. Être et donner toute sa place à l'amour, car finalement c'est l'amour qui subsiste. C'est ce en quoi je crois, car l'amour reste, à mes yeux, la cause la plus valable, la plus forte, la plus vraie et la plus authentique sur cette terre. Amen.